Bon, bah, quelques pages avant, puisqu'on est dans un thème de désordre. Et aussi une technique que cherche le narrateur. C'est tous les chapitres, c'est des techniques que le narrateur cherche dans le monde pour se rassurer, pour pouvoir l'habiter comme il peut. Là, il est avec des amis en vacances. La première fois que j'ai vraiment noté qu'il existait une multitude de choses qui, malgré leur absolue différence, avaient tendance à finir par se ressembler, c'était sur la petite île où la mère de Ben, peu de temps après sa séparation, avait acheté une petite maison. Elle donnait presque sur la plage. Le soir, nous n'avions qu'à descendre un chemin de sable pour se retrouver en face des bateaux qui se berçaient entre eux dans le cliquetis des voiles et des mâts. Nous étions dans le jardin, Ben et moi, avec Marthe, le grand frère de Ben, Meriem, l'amie de Marthe, et Laura, amie de Meriem. Il y avait aussi le fils d'Horreur. Tout ce monde était allongé sur des chaises longues et regardait le ciel. Je m'étais dit que vu d'en bas, toutes les étoiles se ressemblaient, et que si nous en restions là sans moyen de mesure et sans aucun outil d'observation, chacun de ces points lumineux était le même que l'autre, simplement répété des millions de fois sous la voûte céleste, formant parfois d'originaux dessins, une casserole, un chariot, un lit superposé, un t-shirt, une centrale, un gilet de sauvetage, un soldat, et nous faisions la liste de ceux que nous voyons sans nous demander si ces constellations inventées existaient vraiment parmi les 88 recensés. Je m'étais levé pour prendre un pull dans la chambre, et j'avais un instant observé de la terrasse le petit groupe d'allongés que nous formions, Marthe et Meriem, Laura, Ben, le fils d'Horreur, et moi, sur mon transat vide. Tous se confondaient et dessinaient au milieu de l'herbe une constellation unique qui avait les contours d'une main. Je ne reconnaissais personne. Déjà la même sensation m'avait pris un peu plus tôt, lorsque nous étions remontés sur nos vélos en sortant de la plage. Nous avions passé le trajet du retour à nous doubler les uns des autres, et je ne savais plus qui doublait qui. Tous les vélos étaient les mêmes, avec leur petite lumière fixée sur la tige de sel dont le spectre rouge filait à travers les haies enténébrées. Nos corps se confondaient dans la vitesse, l'horizon aspirait le ciel, et pour une rare fois, je m'étais senti appartenir à un groupe. À cette période, le fils d'Horreur et moi étions encore un peu amis. J'aimais ses cheveux, desquels quelques essaims argentés apparaissaient déjà, et son regard de souveraineté légère, qui s'alourdirait quelque temps plus tard. En haut, les étoiles brillaient en des milliards d'exemplaires. Je ne pouvais pas les compter, et elles étaient les mêmes. Je me sentais comme dans une grotte, parvenu à la grande salle, sous le ciel, comme un plafond de verre luisant, comme en Nouvelle-Zélande, comme les grottes de Waitomo, comme partout où je n'étais jamais allé, et je m'étais demandé si le simple fait de comparer toutes ces choses entre elles ne prouvait pas qu'elles étaient les mêmes depuis le début. Quand il s'était mis à pleuvoir, nous étions rentrés dans le salon mal éclairé, et j'avais de nouveau pensé, comme dans une grotte.
Salut, bienvenue dans Il se passe quelque chose, l'émission poétique de Radio Campus Paris. Ce soir, je parle de nouveau avec le poète, musicien et romancier Gabriel Gautier. Gabriel Gautier, pour le resituer un petit peu, il vient de Rouen, en Normandie, enfin un petit peu à côté. Il a fait les Beaux-Arts de Paris, il a 33 ans et il a publié chez Corti, La Vallée du Test, un recueil de poèmes et Space, un roman d'une très grande beauté. Ce soir, on prend donc les choses en cours, l'entretien a déjà commencé et une première partie a été diffusée le mois dernier. Gabriel nous parlait de comment il est devenu poète et de comment on réussit à écrire un premier roman. Et pour lui, ça a été à l'aide d'un journal rigoureusement tenu et de petits mantras intéressants, par exemple en acceptant que les livres sont faits de coutures très grosses, comme les coutures des vêtements, qu'on oublie pourtant quand on les porte. Ce soir, on prend donc les choses en cours avec Gabriel. Si vous voulez écouter la première partie de l'entretien, rendez-vous sur le site de l'émission « Il se passe quelque chose », sur le site de Radio Campus Paris, mais je crois qu'on peut prendre les choses en cours quand on écoute la radio. parce que la radio, comme les livres, comme les films, se découpe avec des coutures très épaisses.
Péripétie nocturne, féerie souterraine, troublante découverte, curieux événements. Étoile de diamant, mystérieuse cheminée, nouvelle troublante, grotte secrète, coffre de bois sombre complot. Papier caché, nouvelles hypothèses, verre brisé, carton trésor, encore des mystères, encore des mystères. Encore des mystères avant que tout s'explique.
J'aime bien l'expression refaire le monde. Quand on dit hier soir, on a refait le monde. En fait, ce n'est pas une si bête expression. C'est, peut-être que c'est vraiment vrai. Ben est un ami du narrateur où, en fait, il, à force de parler, ils refont le monde. Et le lendemain, quand on dit hier, on a refait le monde, c'est parce qu'on est incapable de résumer ce qui s'est passé. Et peut-être qu'on l'a vraiment refait. Mais il s'est écroulé depuis la nuit dernière. Mais il y a un moment où le livre permet de garder une trace de ce monde qui à un moment a été refait entre deux personnes. C'est-à-dire c'est ma version d'un monde qu'on a essayé de fabriquer à deux, chacun de notre côté sans nous voir. Et lui, il en a certainement une autre. Mais le fait de transcrire cette version, ça, c'est mon travail. Ouais.
Et ça passe notamment... Enfin, je pense que ça fait le lien avec Refaire le monde. Mais par, en tout cas, dans Space, l'accumulation de théories sur le réel. Il y a un truc un peu qui m'a fait penser un peu aux auteurs. Mais d'ailleurs, tu parles de Galilée, un peu 17e siècle, un peu mécanisme, un peu automate, un peu découvrir comment fonctionnent les choses. Alors qu'en même temps, tu donnes pas tant de crédit que ça à ce qui est le vrai, le réel. On a l'impression que pour passer par le roman, tu as dû passer par cette description théorique du monde, sans avoir vraiment l'intention de le déplier ou de l'expliquer.
Oui, j'en ai besoin parce que c'est ce qui me permet de croire au monde, en fait, pour parler très simplement. Et ça me refait penser au journal, c'est-à-dire pourquoi aussi j'écris mon journal. Parce que chaque jour, je peux renouveler un vœu et dire... Pour cette journée, j'y crois encore. et le jour me donne suffisamment de raisons d'y croire. C'est-à-dire, donc, dans le journal, je vais revenir hein, sur Space, mais le journal me permet de dire, par exemple, ce qu'il y a par la fenêtre, des oiseaux, les voitures, les arbres. Pour cette journée, j'y crois encore. En les nommant, j'y crois encore. Je suis d'accord avec ce lien. Et sur ma manière de faire des théories du langage qui partent de théories mécaniques suite à des conversations avec Ben, c'est-à-dire que aussi chaque jour, si on résumait notre journée, il y aurait peut-être une idée qui ressortirait. Aujourd'hui, je me suis intéressé à telle chose. Aujourd'hui, je me suis expliqué le monde de cette manière. Et c'est ce qui m'a permis d'y croire. Peut-être que cette théorie ne sera plus valable demain. Mais pour aujourd'hui, je peux souffler. À la fin de la matinée, quand j'ai écrit ma page, j'ai renouvelé ce vœu. J'y croirai aujourd'hui par ce biais-là, à travers ce prisme-là, à travers cette idée. Et dans Space, je crois que c'est ça. C'est alors j'y croirai parce que Ben m'a dit que les avions, lorsqu'ils rentraient et qu'ils étaient criblés de balles et qu'on les étudiait pour voir où est-ce qu'il fallait les protéger, on disait il faut les protéger partout. Partout, sauf là où il y a des trous, parce que ça signifie qu'ils ont été plombés, mais qu'ils sont revenus. Donc cette théorie, pour moi, ça finissait par parler de la littérature, le tunnel sous la Manche. Lorsqu'il explique au narrateur comment fonctionne le tunnel sous la Manche, le narrateur finit par s'imaginer « voilà ce qui se passe ». Je ne sais plus, pour construire une phrase. Une phrase est un tunnel. Il y a des milliers d'ouvriers qui s'arrachent toute la journée pour qu'on puisse nommer le mot train ou le mot avion. Et le mot est formé et il faut une puissance inouïe. Et ça, par contre, c'était spontané. Je ne sais pas je saurais pas exactement expliquer pourquoi j'ai tout de suite été attiré par cette équivalence entre le texte, le monde. Le mot avion, les vrais avions. Trouver un lien entre ces deux choses, quoi. C'est le monde est dans le texte. Il y a une conversation entre le deux. Le texte est dans le monde. Ils se traduisent l'un l'autre. Se font apparaître mutuellement. Si nommer les choses disparaît, alors la chose disparaît à son tour, s'écroule. Là, il y a un nous. Entre ces choses, elles ont besoin les unes des autres, quoi. Mais peut-être c'est parce que, justement, ce que je te disais, que ça me permet de croire au monde si je le nomme pas. C'est comme si, tu vois, Space est un livre adressé dans l'adresse à Ben, mais dès que je dis le mot arbre, en fait, chaque mot dans une phrase est une adresse. Quand je dis le mot arbre, je m'adresse aux arbres. Quand je dis le mot lampe, je m'adresse aux lampes. Et c'est-à-dire, je les invoque toutes ces lampes, j'invoque tous ces arbres, pour me dire, voilà, ils sont autour de moi. Pour aujourd'hui, j'y crois. Je ne saurais pas être plus précis. C'est une affaire de sentir que les... À ce moment-là, c'était ça avec Space, je pense, tellement peur que les choses se dérobent, de tomber dans le vide. Bah, c'est le passage que je lisais tout à l'heure sur les infrastructures aquatiques autour de lieux, de jolis lieux. C'est le lac est tellement au bord de m'engloutir, cette matière sombre et noire et qui n'a pas de matérialité. J'étais tellement au bord de m'y noyer. Alors il faut nommer tout ce qu'il y a autour, et les nommer. Plus on les nomme, ça fait vibrer toutes les choses réelles du monde. Presque pas si loin de la prière, mais... Ouais, comme si quand je disais à chaque fois que je dis le mot lampe de poche, alors toutes les lampes de poche sont convoquées. C'est-à-dire qu'il y en a déjà deux, ça me permet d'y croire. Quand j'ai dit le mot lampe de poche, j'ai pensé à une lampe de poche et tu pensais à une autre lampe de poche. Donc, là, la lampe de poche, elle vibre entre deux versions. Et comme si je croyais au fait que ça m'a permis dans l'écriture et dans le monde de sentir que les choses Voilà, je ne serais pas comme un passe-muraille à les traverser, c'est-à-dire elles ont une densité, c'est des vrais objets, ça. Les nommer encore et encore, les rendait disponibles, réels, je pouvais les toucher, je pouvais les utiliser, je pouvais m'en servir et me déplacer dans l'espace, quoi.
Border Collie. Dans la colline, tu as perdu ton pendentif hier, pendant que tu les caressais.
Ça me fait penser au fait que, du coup, cette matérialité, elle donne lieu à des... Il y a une puissance de l'objet. Enfin, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette théorie. Mais il y a une puissance de l'objet et qui fait advenir un monde, mais qui le... Je pense notamment aux objets de la bourgeoisie qui peuvent être très présents.
Ouais.
Et tu as l'air de vouloir les rendre profondément réels. T'as pas envie de les casser, quoi.
Bah, c'est super intéressant parce que je me le disais pas comme ça, mais oui, mais. Dans Space, le narrateur, dans les maisons qu'il visite, a quand même une certaine déférence, admiration pour les objets de la bourgeoisie, parce qu'ils sont, beaux, ils sont souvent anciens, ils coûtent cher, il le rassure, quoi. Je crois même qu'il se dit à un moment, ça me permet de me sentir vivant et de me dire qu'éventuellement je vais pas mourir tout de suite, quoi. Il aime ces détails, ouais. Et ça, je me suis pas encore trop posé ces questions, mais quand j'étais en famille d'accueil, que je vivais dans une très belle maison chez les parents d'un garçon de ma classe, je me le disais pas comme ça, mais il y avait des beaux tableaux, il y avait très beau parquet ciré, il y avait la très belle vaisselle. Ça veut pas du tout dire que moi j'ai vécu dans le contraire. C'est juste que ces maisons de ville en briques rouges, je sais pas, c'est un autre imaginaire. C'est pas la maison où j'ai grandi, quoi. C'était plus simple quand même chez moi. Et ces objets qui, peut-être ça vient de là, ma surutilisation du mot brillant, quoi, le brillant, ces choses qui brillaient, qui avaient été polies, dans lesquelles je pouvais me refléter. Pourquoi, je ne saurais même pas te répondre, pourquoi j'ai un plaisir à les décrire, quoi. Mais je... Là, c'est si je pense à mon regard d'enfant sur les choses à... Peut-être que c'est parce que la sensation que tout pouvait disparaître autour de moi et que sur ces objets, ils brillent tellement que la nuit ne tombe jamais sur eux, ils brillent quand même dans la nuit, quoi. Et je peux... Là, je pense à des belles aiguilles d'horloge, par exemple, je... Elles sont pointues, je peux m'y piquer, elles font quelque chose au corps, elles font pression, elles ont du poids, les objets de ces maisons ont du poids parce qu'elles sont de bonne qualité. Tout ça, toutes ces valeurs, le poids, la taille, l'ancienneté, la matière, me faisaient croire au monde. Ces objets sont, je sais pas, sont C'est étrange de dire, ces objets sont purs, quoi. C'est... Ouais, ça me fait penser à leur poids, quoi. Je pouvais m'appuyer dessus, comme se mettre dans un fauteuil qui coûte cher, où il y a une espèce de sensation que... C'est hyper exagéré dit comme ça, mais une sensation que tu vas vivre longtemps quand tu te mets dans un fauteuil qui est cher, quoi. Tu vas mieux dormir dans ce très beau lit ou contre ce très beau coussin.
Ouais. Oui, et en même temps, du coup, il y a quelque chose. Ce qui fait que, peut-être, je trouve pas pour autant que ce soit une littérature bourgeoise, c'est que ton regard, c'est pas un regard. Ça pourrait pas être un bourgeois qui pourrait parler avec autant d'amour de ces objets.
Non.
Il y a quelque
Non,
chose
parce
d'un
que
peu.
d'ailleurs les bourgeois, mais je crois que je le dis, ne savent pas les utiliser. C'est aussi pour ça qu'on a autant envie de leur piquer, quoi. J'ai pas tant dit ça, je crois, dans Space, mais j'aurais pu raconter une nouvelle où mon petit personnage, il vole des objets parce que ces objets, ils ont rien fait pour le coup. Qu'il a envie de les mettre dans ses... Je pense qu'il aura envie de les mettre dans ses poches, de les utiliser lui, quoi.
C'est un peu ce que tu fais en écrivant.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que j'ai aimé ces maisons. Et j'ai vraiment aimé ces maisons, j'ai vraiment aimé ces objets. Et certaines des personnes qui les avaient achetées, je les ai aimées aussi. C'est pas un truc, en fait, de... Je crois pas que je défonce qui que ce soit. Peut-être un peu le fils d'horreur dans Space, mais...
Bah, sur ce sujet un peu, ça me rappelle le chapeau de cet article de En attendant Nadeau, qui était un peu raté à mon sens, puisque c'était, je sais plus, c'était Space ou La Vallée du Test.
Space.
Ouais. Un blog, un très bon blog de littérature, et un mec qui a l'air de très bien écrire, qui est d'avoir très bien lu ton livre, mais qui commence peut-être par dire que c'est pas un livre qui est dans l'air du temps, c'est pas un livre politique entre guillemets, ou qui serait un livre queer féministe. Est-ce que tu as l'impression que toi t'écris à rebours de ta génération ou pas du tout? J'ai eu l'impression que c'était pas rendre raison à ton livre que de le présenter comme contre ce qui se faisait aujourd'hui.
Bah, j'avais pas aimé ce chapeau qui disait, je crois, en résumé, que qui croyait utile de préciser que ce livre n'était pas un livre sur les théories, qui n'était pas un livre sur le féminisme, qui n'était pas un livre sur la politique en ce moment, mais... Je trouvais que c'était inutile de le décrire comme ça, parce que dans ce cas-là, c'est aussi un livre qui n'est pas sur telle chose, telle chose, telle chose. Oui, la liste peut être très longue. Et alors, de là, de toute manière, à faire un livre sur quelque chose, ça, j'étais incapable de résumer Space. Mais aussi, je pense, j'étais un peu déçu que le livre soit décrit comme ça, comme si ça voulait dire que parce qu'il ne parlait pas d'une équipe, alors il faisait partie de l'autre équipe. Ça crée un antagonisme énorme. En fait, ça crée des équipes. Et c'est pas un truc d'équipe de sportive, en fait. C'est entre les livres féministes et les livres pas féministes, on sait très bien quels sont ce qui s'écrit et qui sont des livres pas féministes. Et d'ailleurs, ils le disent, quoi. Donc, j'avais pas envie que Space soit associé à un truc de... Bon, bah voilà, en fait, on a remarqué que nous, on a envie de faire des équipes. Lui, on va le mettre dans la nôtre, quoi. Je me suis rien dit, quoi. Je fais ce que j'essaye de faire. Je n'essaie pas d'occuper toutes les places dans l'écriture. C'est pas parce que je parle de quelque chose que ça ne parle pas de ce dont ça ne parle pas. Une espèce de chose comme ça, quoi. Je me sens pas dans une espèce de quête d'embrasser tous les sujets. Je n'y pense pas, je pense même pas à un sujet. Je ne saurais même pas te dire le sujet de mon écriture, de quoi je parle. Et après, il y a un autre truc dans l'écriture où cette réalité vacillante, peut-être que maintenant, mon monde est de plus en plus matériel, je suis un peu plus assuré du monde, donc j'ai plus envie de parler de, par exemple, où je vis, quand je vis. Quand je te disais tout à l'heure que Barry, dans ce livre qu'il a écrit avant Peter Pan, dit « Voilà, on devient romancier quand on commence à parler de là d'où on vient, de l'endroit où on a vécu. » Peut-être qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu plus apte à pouvoir le faire. Mais il se trouve qu'avec Space, c'était absolument pas la question. C'était déjà de pouvoir se sentir et dire à des gens qui ont du mal à le sentir que quelquefois nous sommes bien dans l'espace, quoi, nous sommes là. Je me suis pas posé d'autres questions, je crois.
En résumé, à cause d'un mouvement, un bleu recouvre ta main. Un goût familier t'attrape toutes les nuits à 3h du matin. Les pièces forment l'ensemble des
J'espère que la suite des livres, que les prochains romans que j'écrirai, que j'aurai peut-être un peu moins besoin de cette béquille, quoi. Mais qu'en effet, il y a des moments de respiration où je me disais, tiens, j'arrive à raconter naturellement un souvenir, tu vois. Mmh. Et ça, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, ouais. Et oui, j'espère que, je suis pas sûr d'y arriver, que mes personnages auront de moins en moins besoin de dédoubler leur réel, le commenter, le mettre à l'épreuve, l'interpréter, mais en même temps, je pense que je sais faire que ça, quoi. J'ai besoin de tester les choses, quoi, de... Ouais, tester les choses pour y croire, quoi, donc... Je pense que j'ai pas fini d'avoir des personnages qui font un retour sur la manière qu'ils ont de parler, d'interpréter les mots qui servent à nommer les choses. Ouais, je me sens, pour essayer de lier à ce que tu disais tout à l'heure, je me sens à rebours de rien, je me sens à un endroit particulier de... Je me sens à un endroit de où comment mes personnages commentent... je sais pas comment en parler. Je me sens à un petit endroit. Je sais pas si je fais partie d'un centre. Je me sens à un petit endroit... en bordure du monde, oui, et je sais qu'il se rapproche du monde, mais je viens de ce petit endroit, quoi.
Est-ce que tu peux nous lire des morceaux de la vallée du test?
Ouais. Bah, j'ai choisi les... Il y a quelques poèmes qui sont adressés directement... des noms de personnes, et je me suis dit, voilà, comme choix, je vais lire les cinq poèmes qui sont adressés à des gens. À la fin d'une description, il peut s'en suivre un énorme besoin de repos. Par quoi protégerons-nous les murs de nos appartements de ce que je décris et de ce que tu peins? Au fond du magasin, une synagogue brille dans la nuit. J'emprunte la sortie réservée aux employés. Elle donne sur le jardin botanique de la ville. L'univers est particulier, la fatigue, la contrepartie. La magie, c'est l'utilisation parfaite, maximale, des possibilités du temps et de l'espace. Sur la couronne de papier doré, tu déplaces avec ta main un verre posé sur la table. La différence entre la télékinésie et ta main est infime par rapport au miracle que représente déjà le transport. La différence entre l'hypothèse que tu pourrais lire dans mes pensées et le fait que je te les adresse est elle aussi négligeable. Les livres sont écrits en entier pour qu'on puisse dire « c'est un passage » et le prendre. S'il n'y avait que des passages, on ne pourrait pas les prendre. Tu tiens une loupe à la main et tout brille. La monture dorée de tes lunettes, les boutons de ton gilet, ta bague, les boutons cuivrés du fauteuil en cuir ciré, les reflets dans le verre de la loupe, et tes cheveux peignés en arrière. Tu as l'air concentré. On dirait que tu tentes de déchiffrer un message. De petits détails commencent à se dessiner. La voiture qui était garée dans le premier poème passe devant la maison du deuxième. Saturne dégage les bords des prés, des plantes sauvages, des ronces, des fougères, de l'ortie, du chardon. Parcourt le contenu du texte, vérifie la syntaxe, extrait des éléments avec sa faux. J'observe Saturne au télescope Newton 150-750. Quand je suis avec toi, je travaille à ce que je peux te dire. Dernier jour de septembre, quand il a fallu tondre le jardin pour la première et dernière fois. L'herbe était vraiment haute, la tondeuse étouffée. Par le visionnage de films d'espionnage, tu rêves que tu es en Égypte, au milieu d'un fleuve enneigé. Mais le Nil ne te vient pas à l'esprit. Tu ne sais pas si tu enquêtes ou si tu pries. Tu répètes des éléments du langage pour lesquels tu as de l'affection, puis tu arrêtes de faire fonctionner ton cerveau, reproche à l'Occident de t'avoir surchargé symboliquement, jusqu'à ce que tu perdes le meilleur de toi-même. La lune t'éclaire en train de planter un alizé, et je le prends pour un aloé, mais au fond je sais bien que c'est une azalée.
Alors, est-ce que ces poèmes étaient déjà écrits quand tu as écrit Space, ou est-ce qu'ils sont venus après ?
Ils sont venus pendant. Ils sont venus à un moment où j'essayais d'écrire Space en Angleterre, où j'étais chez Ben. Mais ça faisait trop d'être dans la maison qui ressemblait à la maison que je voulais décrire dans mon roman. Trop de superpositions. Et j'ai voulu trouver quelque chose d'autre à faire. Et je me suis mis à écrire ces poèmes. Donc, je les ai écrits. J'y pensais depuis longtemps, en fait. Ça faisait plus d'un an où j'avais une vague idée de comment les écrire. C'est une question de niveau aussi, je trouve, dans la poésie. Parfois, j'ai l'impression quand même de monter un escalier ou d'en descendre un, en tout cas de m'enfoncer dans un labyrinthe. J'ai essayé de commencer à les écrire au moins un an et demi avant. Et j'ai constaté que j'avais pas le niveau. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Je me suis dit, j'ai une bonne idée, j'ai un bon désir, j'ai une intention, mais je n'ai pas encore le niveau pour les écrire. Je ne suis pas assez bon, là. Parce que parfois, je parlais du bon et du mauvais dans le journal, mais il y a quelques petites choses où, au bout d'un moment, on sait là où on fait du bon pain ou... Le pain qu'on fait bien et celui qu'on ne sait pas encore bien faire, quoi, qu'on teste. Et puis, suite d'accidents a fait que tout à coup, j'ai eu la sensation d'avoir trouvé la solution. Et je me suis mis à les écrire frénétiquement. Et quand j'étais en Angleterre, et j'en ai écrit trop vite, j'ai fait un peu une overdose de ces poèmes, qui n'avaient pas du tout cette forme. Je te disais tout à l'heure qu'ils ont pris plein de versifications différentes. Et je les ai laissés pendant plus d'un an. Et puis je testais d'autres modes de versification. Et ce livre, c'est vraiment fini une fois que j'avais terminé Space, au moment où j'ai écrit la nouvelle qui clôt la vallée du test. Ça, c'est drôle parce que maintenant... Des quelques livres que j'ai faits, j'ai commencé par lire un texte tout à l'heure qui s'appelait « Il n'y a aucun doute ». C'est le livre sur lequel j'ai eu, une fois que j'ai su qu'il était fait, il n'y a plus jamais eu un seul doute, alors que j'ai douté pendant... Ces poèmes sont restés dans une espèce de zone d'entre-deux, de chaos, de néant... Ouais, ils étaient nulle part. Ils étaient faits, mais ils étaient nulle part. Donc j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas faits, pas finis. Ces poèmes ont été finis quand j'ai écrit la nouvelle pour clore la vallée du test, où je me suis dit, ben, je crois que c'est en... J'ai lu le recueil d'Anne Carson, Vers ironie et Dieu, qui est un recueil génial, parce que c'est un recueil de mélange. C'est-à-dire, le premier, c'est un poème versifié sur Anne Carson, qui rentre chez sa mère... lit du Bronté, l'île et haut de Hurlevent, juste après avoir quitté son compagnon. C'est un poème qui raconte cette histoire-là. Ensuite, une espèce de truc de poème presque biblique qui s'appelle c'est plus le livre d'Isaïe, un poème sur qui est une espèce de guide pour aller à Rome. Et à la fin, il y a 15 pages qui sont juste une petite théorie, un texte théorique sur le genre des sons. D'ailleurs, ça parle de radio. Est-ce que sur le genre et le son. J'avais trouvé ce recueil tellement génial de choses. En fait, un livre n'est pas juste fait pour rassembler des choses qui se ressemblent, quoi. C'est voilà. Elle dit juste, je vais faire un poème là-dessus, sur ma séparation et Bronté, sur Rome, un autre sur le son. J'ai trouvé une telle liberté là-dedans. Je me suis dit, mais il faut que je fasse un petit essai ou quelque chose. Et j'ai écrit cette histoire, et quand je l'ai écrite, je me suis dit, c'est bon, le livre est fini. Et à ce moment-là, je n'avais même pas vu qu'il y avait des liens entre cette nouvelle et les poèmes de la Vallée du Test. Mais c'est cette idée qui m'a tellement excité pour finir le livre où je me suis dit, je n'avais jamais pensé à ça, mais il faut absolument que je finisse ce recueil par une nouvelle. Ouais. Et là, c'était terminé.
Tout comme il y avait des poèmes dans Space.
Ouais.
Est-ce que The Dark, c'est un poème ?
Non, The Dark, c'est justement pas du tout un poème. Et The Dark, ça a été le premier texte que j'ai écrit en étant totalement sorti de Space. Premier texte de narration après Space, et où je sens déjà que The Dark a quitté des choses de Space, réutilise certains éléments. Il y a toujours un narrateur un peu inquiet par le réel, mais je trouvais que même dans une petite nouvelle, il y avait plus de matériel. Il y avait plus de... Cette fois-ci, les objets étaient un tout petit peu moins vagues, ils avaient plus de poids. Je ne sais pas si ça se sent, mais en tout cas, moi, j'ai eu cette sensation. Et pourtant, c'est l'histoire d'un garçon qui se rend à Londres pour faire la chronique d'une pièce que, pour plein de raisons, c'est l'histoire de la nouvelle, il va rater, mais il va quand même écrire cet article. Il va rater une pièce qui s'appelle « The Dark ». Et il va quand même écrire son article sur The Dark. Donc c'est l'histoire d'une chose pas vue qui va le mener à penser à tout ce qu'il n'a pas vu, à ces endroits, ouais, ces endroits obscurs, ces angles morts, quoi, de lui-même et autour de lui. Il menait à une réflexion, voilà, sur ce qu'on ne voit pas. Et pourtant, tout ce qu'il voit en dehors de ce qu'il ne voit pas, c'est la première fois que ça me semblait aussi... ça avait un bruit comme si je pouvais frapper sur ces objets et qu'ils tenaient, ils s'effondraient pas comme des maisons de papier, quoi. C'était plus des décors vacillants comme dans Space, où si tu mets la main sur le mur s'effondre sur la nuit, quoi. Ouais, là les canards sont, les oies dans le parc sont de vrais canards et de vraies oies. Je crois que c'est une phrase de Marianne Moore, une de mes poètes préférées, qui dit que la poésie, c'est... Elle fait un faux jardin avec de vraies chouettes à l'intérieur. Il me semble que ça, c'est pas un vrai jardin avec de fausses chouettes, non. Elle fabrique un faux jardin avec de vraies chouettes. Ouais, ben moi, c'était de vraies oies et de vrais canards.
J'ai envie qu'on écoute un peu l'instru de la conduite de The Dark. Est-ce
que ça va marcher ? Ah oui, parce que ça va être un... J'en fais un opéra. Ouais.
Thank you.
Comment t'as eu envie de passer par cette forme de l'opéra ?
Moi, ça fait longtemps que je rêve de, comme je viens aussi de la musique, j'ai toujours chanté, fait de la chorale, fabriqué des morceaux de musique. Mais j'avais l'impression que je ne saurais jamais écrire une chanson, donc au lieu de ça, j'ai juste chanté mes poèmes. Et ça faisait longtemps que j'avais envie un jour d'avoir le niveau de chanter juste de la narration. Ouais. Mais d'ailleurs, le roman, c'est... le roman, c'est... L'apparition du roman, c'est la... Si je simplifie, c'est quand on a diversifié le monde. Donc on le désenchante. Et donc, par une espèce de processus inverse... C'est de réenchanter la prose. Je la reversifie pas. Par contre, je la chante. Comme avant, les romans en vers. On appelait ça la chanson de geste, quoi. Et ensuite, on l'a diversifiée, on ne l'a plus chantée, quoi. Et donc, j'avais envie de... qu'est-ce que c'est que chanter de la prose? Parce que ça n'obéit pas plus à des notions de couplet, de refrain, et même quand on est dans le poème, ça obéit plus à une rythmique, chaque phrase a un nombre de syllabes différents. On est beaucoup plus, c'est beaucoup plus vertigineux, on est beaucoup plus perdu. Et ça, c'était un gros défi que je ne pouvais pas mener seul, et que c'est en rencontrant une musicienne baroque qui s'appelle Marie-Pierre Bréban, qui fait tout un tas d'instruments, mais qui fait du clavecin. Et on a beaucoup parlé de l'instrument, et finalement elle m'a proposé le clavicorde, qui est la version miniature du clavecin, une version de chambre, quoi, un objet. C'est pas un instrument de concert, c'est pas un instrument grandiose, c'est un instrument au son très ténu. On a toujours, la première fois que j'ai entendu un clavicorde, j'avais l'impression que c'était pas assez fort. Et ça m'a plu aussi, pouvoir faire de la musique qui... Tiens, j'entends pas assez, il y a quelque chose de discret, mais... Au final, maintenant, je pense que le clavicorde est un objet qui ressemble à mon écriture, et il y a une belle image de Marie-Pierre, elle me disait... C'est-à-dire que si c'est pas assez fort, c'est pareil, j'aimerais que moi, mes poèmes ou mes textes, en fait, le centre, il est en dessous, il y a... Ce dont je parle n'est pas ce dont je parle. C'est pour ça que je ne sais pas ce dont je parle. Ça se situe toujours à côté ou ailleurs. Et le clavecin, le clavicorde, pardon, si on veut l'entendre, on est obligé de l'entourer, d'être tout près de l'objet. C'est un instrument très bizarre qui ressemble un peu, ça c'est aussi des mots de Marie-Pierre, qui ressemble à un petit cercueil d'enfant. Et on se disait, c'est drôle, pourquoi on a choisi cet objet? Et Marie-Pierre me disait, mais le clavicorde réunit, c'est un objet comme les tables de spiritisme, ces petites réunions, ça réunit un mélange, un groupe d'initiés et de curieux. Et là, ça m'avait frappé cette image, je m'étais dit, c'est exactement ce genre de personnes que j'aimerais réunir. Je pense que c'est pour ces personnes que j'écris. Ça serait la définition parfaite de pour qui je le fais, pour qui je fais ces poèmes et des romans. Je le fais pour un petit groupe d'initiés et de curieux. Parce que là, on est dans l'exact équilibre entre ce qui est fermé et ce qui est ouvert. Il y a quelque chose qui va peut-être pas être prosélyte, mais il y a quand même quelque chose de grand ouvert. Il y a une lumière, c'est là. Et puis, il y a ce petit objet au milieu, quoi, ce petit endroit. Et ça serait une... Je trouvais que cette définition du clavicorde, voilà, je me disais, j'espère pouvoir dire ça de mon écriture. Et quand Marie-Pierre s'est rendu compte on s'est dit qu'on allait travailler ensemble, une personne qui a la patience de travailler avec mes phrases et où en même temps, là c'est intéressant parce qu'on est obligé d'en modifier certaines, donc là le texte, on est obligé de de le refaire, de le plier, qui se plie au clavicorde. Donc, les deux se plient l'un à l'autre et c'est génial comme travail d'interprétation, parce que c'est aussi de l'interprétation, le fait de le chanter, j'interprète le texte, de mélodiser chaque phrase. Je pense que c'est aussi mon endroit du fantasme de à quel point la littérature, le langage, c'est matériel. C'est quand je zoome dans la phrase et qu'il s'agit de la chanter, mais tu peux passer 2 heures sur une phrase. Et là, tu sens que chaque phrase est composée de noms, qui sont composés de lettres qui font un certain son, et que ces lettres, elles forment le monde, quoi, et que si tu le chantes comme ça, le monde apparaît, et si tu le chantes comme ça, il n'apparaît pas. Donc ça pousse la phrase hors du livre, quoi. Je crois que c'est ça que j'avais envie de faire, d'où l'idée d'un opéra je repense à Peter Pan, mais de trouver une... Si elles sortent de la page, alors ces phrases finiront par avoir une ombre, comme les objets ont une ombre. Donc les mélodiser, c'est leur trouver une ombre, et du coup un poids, une densité, et les faire exister.
Est-ce que tu peux nous chanter, pour finir, un poème, pour qu'on entende sa musicalité ?
Eh ben, oui, je vais chanter... de retrouver un petit poème dédié à Paul Dano, l'acteur. J'aime les méchants qui parlent de leur enfance d'orphelin dans leur cellule de prison au-dessus d'eux, laquelle aucun vol n'est autorisé. Ils parlent tout bas comme des avions furtifs, et l'on comprend alors d'où vient cette lumière, et qu'ils pourront bientôt ce que nous ne pouvons. Au mois de mars, je note dans le ciel l'apparition d'anneaux. Tous les enfants J'aime les méchants qui parlent de leur enfance d'orphelin. Dans leur cellule de prison au-dessus d'eux, laquelle aucun vol n'est autorisé. Ils parlent tout bas comme des avions furtifs, et l'on comprend alors d'où vient cette lumière. Et qu'ils pourront bientôt ce que nous ne pouvons. Au mois de mars, je note dans le ciel l'apparition d'anneaux. Tous les enfants ressemblent un peu à Paul Dano. À Paul Dano.
Merci beaucoup, Gabriel.
Merci, merci Amélie.
C'était Il se passe quelque chose, et c'était Gabriel Gauthier, notre premier invité de l'année 2025-2026. Et je peux peut-être vous conseiller de lire ses livres et d'appartenir à son petit cercle d'initiés de curieux-curieuses. Et puis on peut se laisser en compagnie d'une chanson de Gabriel que tu as écrite quand tu étais dans un groupe.
Ouais.
Tu veux pas nous en dire un mot?
J'ai très brièvement construit un petit groupe qui m'a permis de sortir 2 EP qui sont sortis sur le label de La Souterraine il y a quelques années. Et voilà, une espèce de groupe éclair qui a existé puis disparu. Qui s'appelle peut-être prémonitoirement Nevers.
Avec un S.
Avec un S, comme la ville. Mais à un moment où je ne savais pas que j'écrirais un jour autant sur Peter Pan et Neverland, sur... Voilà, ce groupe a été un petit pays de nulle part pendant quelques temps et il est toujours là. Quelque part, je ne sais pas où.
Rêve du crash.
Rêve du crash au champ de maïs. L'odeur du maïs dans la nuit violette. Au champ de violette, je rêve d'un crash. Je rentre à la maison comme un lâche.